BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos à domicile. Chaque vendredi, bienvenue chez vous les amis. On va vous accompagner pendant 25 minutes au cœur de l'actualité crypto de la semaine, avec nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles. Ils sont là, ils nous rejoignent. Claire Balva, elle est VP stratégie de Desblocks. Claire, elle nous accompagne donc chaque semaine. Bienvenue Claire, on la voit s'installer. Si vous nous suivez à la radio en direct, d'ailleurs c'est avec BFM Business, c'est aussi de la télévision, une émission pyrotechnique. Et donc Claire vient de s'installer, rejointe par Thibaut Boutrou. Thibaut Boutrou qui lui représente Meria, il en est le directeur des opérations. Bienvenue Thibaut, bienvenue chez vous, les pros des cryptos. Dans un instant, je vous annoncerai les principales headlines de la semaine, mais d'abord peut-être le potentiel technique sur les cours des cryptos. Xavier Fenot, bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Depuis Interactive Trading, déjà sur le Bitcoin, on est toujours un petit peu déçu par les récentes évolutions du Bitcoin. Vous voyez d'un point de vue technique un potentiel supplémentaire là, se dessiner?
Alors c'est vrai que c'est un marché crypto, même dans son ensemble, calme depuis 2 mois, mais toujours dans un good mood, en fait une tendance de fond haussière depuis le mois d'octobre. Et ça se ressent d'autant plus depuis mercredi avec un chiffre d'inflation aux États-Unis ressorti juste conforme à ce qu'on attendait, en petite baisse par rapport au mois dernier, mais ça a suffi finalement pour faire monter les actifs risqués et crypto-monnaies incluses. Donc en fait, ce calme global s'inscrit pour Bitcoin entre deux bornes qui sont assez bien établies, $59,000 en bas, $73,000 en haut. Et dans la mesure où la lame de fond est toujours haussière, en fait, on achète sur repli lorsqu'il y en a. Donc aujourd'hui, à $66,000, on est au milieu finalement de ces deux bornes, de ce range qui dure donc depuis 2 mois. C'est un premier petit rempart, en fait une résistance sur laquelle Bitcoin a échoué à 2 reprises déjà fin avril et début mai. Et si on arrivait ces prochaines heures ou jours à franchir avec panache justement cette zone, alors oui, bah la prochaine cible serait les récents records historiques à $73,000. Je disais ici en fait sur votre antenne ne pas être inquiet il y a quelques jours quand on était à $61,000. 8% plus haut, bon forcément c'est pas maintenant que je vais changer d'avis, même si oui on pourrait avoir quelques vendeurs qui se manifestent dans la zone de cours actuelle. Parce que si on a une casquette plutôt trading court terme, on continue à faire des allers-retours acheteurs en bas de range, vendeurs en haut et on recommence. Mais à plus long terme, tant que les $48,000 tiennent, tout va bien. Et ce sera plutôt $59,000 à court terme à tenir pour préserver cette dynamique calme, certes, mais toujours positive.
Le Bitcoin, donc alors ils sont comme les deux doigts de la main. Je ne parle pas de Thibaut et Claire, mais bien du Bitcoin et de l'Ether. Est-ce que sur l'Ether, vous êtes un peu plus inquiet quant au potentiel à venir?
Alors, c'est vrai que c'est toujours le numéro 2 derrière Bitcoin, hein, mais aussi en termes de force relative, qui s'affaiblit en fait de semaine en semaine. 9% de hausse sur Bitcoin depuis le début du mois, plus 1% sur l'Ether, mais l'Ether en fait a un sursaut d'orgueil depuis hier. Il prend un peu plus de 4% quand le Bitcoin en prend 1. Alors, il tient toujours très bien les $2,900, un bas de range plus bas que celui qui avait été constitué finalement au début du mois de mars, mais qui permet finalement systématiquement de retenir les cours. Donc je suis positif quand même, tant qu'il tient cette zone des $2,900, même si c'est vrai, il est, vous l'avez dit, un peu moins fort que le Bitcoin, avec pour lui donc les $3,300 à reconquérir pour remettre les pendules à l'heure. Mais à suivre quand même hein, ces prémices d'inversion de force qu'il y a entre Bitcoin et Ethereum depuis hier.
Merci beaucoup Xavier Fenot en direct avec nous depuis Interactive Trading. Les pendules, elles sont toujours à l'heure dans l'émission. L'actualité de la semaine, vous pouvez, grâce à nos experts, la rattraper le vendredi et le week-end, bien sûr, en nous suivant en replay ou encore podcast. On va notamment parler dans un instant des flux sur les cryptos qui pourraient revenir, les flux. C'est ce que nous dit une étude de 43 Research et des explications à suivre de nos experts. De son côté, Circle pourrait bientôt choisir de se domicilier aux États-Unis. Circle, jusqu'ici, était en Irlande. Il pourrait choisir désormais les États-Unis. Peut-être pour préparer une cotation à Wall Street, ce serait sans doute un camouflet. Pour le coup, pour l'Europe, en tout cas, on interrogera là-dessus nos pros des cryptos. Puis les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, qui font pas recette en Chine. Même en Chine, le yuan numérique a bien du mal à convaincre les Chinois. On vous apportera là-dessus des données. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Laissez-vous faire. Bienvenue à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Et nos deux doigts de la main cette semaine, Thibaut Boutrou et Claire Meria. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver, voilà. pour parcourir ensemble, naviguer au cœur de cette actualité crypto, une longue promenade, en démarrant quand même peut-être par... Allez, on va démarrer par ce qui est le moins sympa peut-être, et puis on ira vers le meilleur petit à petit, ça vous va ? Un peu comme, enfin, moi les pizzas, vous savez, je commence par la croûte et puis après je fais le milieu.
Ah ouais ?
On va faire pareil.
Choix surprenant.
Parlant de pizza, c'est rond, on va parler de Circle. Circle sera-t-il bientôt domicilié aux États-Unis ? Selon Bloomberg, Circle, qui émet quand même le stablecoin USDC, pourrait déplacer sa holding de l'Irlande vers les États-Unis pour, pourquoi pas, une introduction à Wall Street. Est-ce qu'il faudrait y voir un camouflé pour l'Europe qui a fait beaucoup d'efforts à travers sa régulation pour attirer l'écosystème, Thibault ?
Oui, c'est sûr que ce serait une déception. Après, il faut pas oublier que Circle a quand même des racines fortes hein, avec les États-Unis. Circle, c'est un groupe qui est américain, qui travaille sur un stablecoin qui est adossé au dollar américain. Donc, c'est pas surprenant de les voir regarder attentivement ce qui se passe de l'autre côté du monde et être attentif à ça. D'autant plus que si ça paraît, ça a surpris un petit peu parce que effectivement, en Europe, on a un cadre et une visibilité qui permet aux acteurs de se développer, un cadre réglementaire qui est strict, mais au moins qui apporte de la visibilité à ces acteurs. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis et ce qui est reproché notamment aux régulateurs américains. Mais sur les stablecoins, il y a quelques semaines, on a eu justement une proposition de texte pour apporter plus de clarté justement sur le sujet stablecoin. Et dans cette temporalité-là, bah, en fait, Circle fait aussi un pas vers le régulateur américain en se disant stratégiquement, bah, si vous êtes prêt à faire des efforts, peut-être que nous aussi, on est prêt aussi à faire des efforts. Donc c'est pas surprenant. Par contre, effectivement, ça envoie un message important aux régulateurs américains de dire, bah, s'ils sont capables de poser finalement un cadre clair, peut-être que les acteurs sont aussi prêt à jouer le jeu, donc ça c'est pas forcément un bon signal pour l'Europe.
Alors les tendances globales sur le marché des cryptos, on évoquait il y a quelques minutes avec Xavier Fenot le Bitcoin et l'Ether, on va revenir hein, sur Bitcoin et l'Ether, mais ce qui a frappé, ce qui a marqué cette semaine, c'est sans doute aussi le rush des meme coins. Cette semaine en bourse, GameStop s'est envolé, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans nos émissions et BFM Bourse, et dans le même mouvement quasiment, on a vu les meme coins aussi beaucoup progresser. Comment est-ce qu'on explique ces mouvements-là, Claire, alors que le Bitcoin, lui, a plutôt tendance à stagner? Qu'est-ce que ça dit et comment marchent les phénomènes des meme coins?
Oui, alors tout est parti d'un tweet d'un compte qui s'appelle Roaring Kitty, qui avait été impliqué en 2021 dans le mouvement qu'il y avait eu sur les actions GameStop. Alors je résume assez rapidement parce que c'est pas le sujet principal, mais à l'époque ce qu'on avait vu, c'était une sorte de mouvement de revanche du retail et des petits porteurs qui investissaient massivement dans les actions de GameStop, qui est un revendeur de jeux vidéo, pour faire perdre de l'argent à des gros fonds d'investissement qui avaient parié à la baisse sur les actions de GameStop. Ça avait plutôt bien marché d'ailleurs puisque les fonds d'investissement avaient perdu gros. Et depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu arriver un memecoin en hommage à ce mouvement-là, memecoin qui s'appelle GameStop aussi, qui est sur Solana. Et donc forcément, quand il y a eu ce tweet il y a quelques jours, on a observé à la fois une hausse des actions de GameStop, plus 150% à peu près, et puis une hausse encore bien plus spectaculaire de ce memecoin qui a pris 3000% en quelques jours. Et donc forcément, on sait bien que les traders et les gens qui vont faire de la spéculation sur les memecoins regardent aussi les différents memecoins. Donc voilà, on a eu le memecoin PP par exemple qui a pris beaucoup de valeur aussi. Et donc ces memecoins se retrouvent à bien sûr surperformer Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos. Je dis quand même attention parce que voilà, c'est des jetons qui sont beaucoup plus volatiles. On les a vus surperformer les grandes cryptos déjà il y a quelques années. C'est rarement durable. Donc c'est souvent des mouvements qui vont très vite à la hausse, mais aussi très vite à la baisse.
Oui, c'est des petits jet skis, quoi. Paf, ça accélère et puis ça tombe très vite. Voilà, on arrive très vite au bout de la jauge d'essence. Bon, et puis à l'inverse, face aux jet skis, il y a les gros paquebots de l'écosystème crypto, Ether et Bitcoin. Bah, les paquebots, en ce moment, ils avancent pas très très vite. Il faut bien le reconnaître. Depuis quelques semaines, on est un petit peu déçus par les performances du Bitcoin. Et c'est l'objet de la question crypto qui claque cette semaine. Chaque semaine, on vous pose cette question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Crypto. Claire et Thibault, êtes-vous prêts ?
On est prêts.
Ouf, quelle euphorie sur le plateau. La question crypto qui claque, la voici cette semaine. Alors que le Bitcoin stagne un petit peu sous ses records, pour vous, c'est un essoufflement durable, une maturité durable ou une prise d'élan pour mieux repartir par la suite ? Telle est la question crypto qui claque cette semaine. Je vous laisse une seconde chacun pour réfléchir et nous livrer dans un instant votre réponse. Quelle intensité. Claire, votre réponse.
J'aime pas cette question, Guillaume. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça revient à se prononcer sur les cours du Bitcoin à la hausse ou à la baisse et j'ai pas envie de faire de conseil en investissement. Maintenant, voilà, ma croyance personnelle, si je devais choisir, c'est bien sûr de dire que ça stagne sous les records pour l'instant, mais que ça va repartir.
Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis aussi tranché que celui de Claire à l'instant. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux et nous laisser votre point de vue, vos arguments en commentaire. Thibaut, votre réponse à cette question.
Moi, je vais me permettre de rajouter un quatrième point qui est... J'ai l'impression qu'on est un peu en suspens, en fait. Il y a pas mal de points qui arrivent, notamment les élections américaines qui sont regardées. On attend beaucoup de choses sur le côté macro US. Il y a beaucoup de projets qui doivent livrer des roadmaps encore. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'attente de ça pour décoller. Mais pour le coup, je suis plutôt très confiant sur la suite.
Telles sont vos réponses à la question crypto qui claque cette semaine, à laquelle vous avez été nombreux vous aussi à répondre, à nous laisser d'ailleurs des arguments en commentaire sur notre fil XBFM Crypto. N'hésitez pas à continuer bien sûr de vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est vrai que bon, pour l'instant on est sur une forme de stabilisation du Bitcoin. Les volumes d'échanges même sur les cryptos ont reculé, figurez-vous, au mois d'avril. C'est la première fois que ça arrive en 7 mois ça. Mais les choses pourraient changer et les flux revenir. C'est une étude qui révèle que le remboursement des créanciers de FTX, ce remboursement pourrait générer une pression acheteuse importante sur le marché des crypto-actifs, Thibaut.
Ouais, c'est ça. Alors pour bien comprendre en fait ce qui se passe, c'est que du coup l'affaire FTX, je reviens pas dessus. Les créanciers vont être remboursés, alors dans les proportions qu'on connaît, c'est-à-dire à la valeur des cours au moment de la chute. Par contre, ils vont être remboursés en dollars. C'est ça qui crée en fait cette potentielle pression acheteuse, et j'insiste sur le mot potentiel parce que du coup tous les créanciers vont être remboursés en dollars et on imagine qu'il n'est pas impossible qu'une partie de ces créanciers utilisent ces dollars pour racheter et reconstituer un petit peu leur portefeuille crypto. On parle quand même de à peu près 14 milliards qui vont être remboursés, donc effectivement même si c'est pas l'intégralité qui est réintégrée sur le marché, ça peut créer une pression acheteuse et c'est d'autant plus intéressant que ça va arriver dans une temporalité proche avec deux autres phénomènes plus ou moins similaires qui sont Genesis et MTGOX, qui sont deux affaires où là également les créanciers vont être remboursés. Là, le cumul des deux, on est à peu près sur 10 milliards également. Et là, par contre, le choix a été fait qu'ils vont être remboursés en crypto. Et donc là, potentiellement, ça pourrait créer l'effet inverse, c'est que ça pourrait potentiellement créer une pression vendeuse. Donc il y a les deux forces qui vont un petit peu se confronter. Alors certains disent que ça va du coup s'annuler, mais la réalité c'est que comme ça va arriver à des temporalités différentes, je pense que ça aura des effets à chaque fois indépendants. Mais en tout cas, c'est effectivement à prendre en compte.
Et pour vous qui nous suivez et nous regardez régulièrement, la réponse sur le potentiel du Bitcoin, sur la stabilisation, c'est que cette stabilisation n'est qu'une prise d'élan. À 51%, vous avez voté pour une prise d'élan. Vous êtes 34% à penser que la stabilisation du Bitcoin ces derniers jours, ces dernières semaines, est un signe de maturité durable. Et seulement 15% d'entre vous avez voté pour un essoufflement durable. Et continuez, bien sûr, on reparlera, on réabordera cette question aussi tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'émission au cœur de BFM Bourse. En attendant, les pros des cryptos se poursuivent chaque semaine, votre machine à condenser l'actualité de la semaine. Une panne, ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Même aux plus endurcis, des plateformes. Coinbase a subi une panne de plus... Je vous vois sourire, Thibaut, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, rien.
Coinbase a subi une panne de plusieurs heures, Claire. Que s'est-il passé chez Coinbase ? C'était en début de semaine.
Mais tout simplement, il était impossible d'accéder au site web de Coinbase qui indiquait une erreur. Alors, il y a certaines personnes qui se disent c'est justement parce qu'il y a plus de volume en ce moment, qu'il y a plus de gens qui souhaitent accéder à Coinbase, et notamment du fait des ETF qui, pour beaucoup, ont choisi Coinbase comme custodian et sur lesquels on retrouve beaucoup de volume. Et donc, certains experts estiment que c'est parce que Coinbase a un rôle central et a justement plus de volume, plus de transactions à gérer, qu'on se retrouve avec des pannes comme celle-ci. C'est pas la première. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'à Coinbase que ça arrive, hein. Ça arrive aussi à d'autres plateformes, puis ça arrive aussi dans la finance traditionnelle. Parfois, on peut se retrouver avec un site web d'une fintech ou d'une banque qui n'est pas accessible. Mais c'est vrai que c'est jamais appréciable, particulièrement dans les périodes où les gens, en général, particuliers ou entreprises, ont particulièrement envie d'accéder à leur plateforme pour faire des conversions, soit à acheter du Bitcoin, soit à vendre.
Oui, et les comptes crypto n'ont pas été mis en danger, hein. C'est aussi ce qui a quand même...
Oui, bien sûr, les fonds étaient en sécurité. C'est pas parce qu'il y a eu une panne d'accès au site web que les fonds étaient en danger.
Oui, et c'est aussi arrivé déjà par le passé à Binance, qui a des volumes énormes aussi. Mais c'est vrai que ça a marqué l'actualité de ce début de semaine, effectivement, cette panne chez Coinbase. Et puis, il y a une question qui taraude en ce moment l'écosystème crypto, c'est cette question du droit à la confidentialité, parce qu'on a de récentes évolutions qui interrogent l'écosystème. Les questions s'amplifient. Le développeur de Tornado Cash a été condamné à un peu plus de 5 ans de prison aux Pays-Bas. Pourquoi est-ce que ça relance encore le débat sur le droit à la confidentialité dans l'écosystème, Claire ?
C'est une affaire qui date, hein, puisque ça fait 2 ans que cette affaire Tornado Cash a démarré. Alexei Partsev avait déjà été arrêté une première fois. Il avait fait 8 mois d'incarcération en préventive. Et puis Tornado Cash, le protocole qu'il a développé, avait été placé sur liste noire par les autorités américaines. Pourquoi ? Parce que Tornado Cash, c'est un mixeur qui permet donc de rester anonyme sur la blockchain Ethereum et donc d'éviter toute la traçabilité qu'on peut avoir sur les blockchains comme Bitcoin, comme Ethereum et comme tant d'autres. Forcément, ça plaît pas beaucoup aux autorités parce que ça les empêche de suivre les fonds et de remonter des filières. Donc Tornado Cash avait notamment été accusé d'avoir participé à blanchir des fonds, notamment dans le hack par exemple du Bridge Ronin dont on avait beaucoup parlé l'année dernière, qui était un hack à 600 millions de dollars à l'époque. Donc forcément, ça fait tâche. Et puis, ce qui est très compliqué pour les autorités ici, c'est que Tornado Cash, c'est pas une entreprise à laquelle on peut s'attaquer simplement en allant chercher le dirigeant officiel et puis en fermant l'entreprise. C'est un protocole qui est open source, qui est ouvert, qui est relativement décentralisé, même si les autorités contestent ce point. Et la défense d'Alexei Partsev, c'était de dire justement, moi j'ai créé un outil, j'ai créé du code, je l'ai déployé. Et aujourd'hui, il fonctionne et en fait, je ne peux plus rien y faire. C'est décentralisé, il y a une DAO, etc. Et sa défense, c'est de dire, je l'ai créé pour favoriser l'anonymat en ligne, pour permettre à tout le monde de rester anonyme. Et ce que disent les autorités en face, c'est, mais attendez, vous aviez de nombreuses alertes, de nombreuses informations qui laissaient penser que votre outil était utilisé à des fins criminelles, à des fins d'activités illicites. Et donc, vous auriez dû, par exemple, vous en distancier, arrêter d'améliorer le protocole, etc. Et donc, il y a cette bataille entre les autorités qui, comme à leur habitude, penchent pour une grande traçabilité financière, et de l'autre, les défenseurs de l'anonymat en ligne qui disent, mais des outils comme ça, c'est hyper important pour la démocratie, pour nos sociétés. Et en condamnant ce développeur à 5 ans de prison, dans un jugement qui est très ferme, hein, il faut le lire, alors c'est qu'un jugement en première instance, mais quand même, finalement, on encourage les développeurs à éviter ce genre de produit et à ne surtout pas créer ce type d'outil. Et donc, on voit là que c'est une bataille politique, en fait, qui se mène entre les outils pour l'anonymat et les développeurs qui les créent, et puis, de l'autre côté, les autorités des États, les autorités financières.
C'est une question aussi pour attirer les talents de l'écosystème. Quand on crée un risque sur le droit à la confidentialité, c'est pas de nature à attirer les meilleurs talents, les meilleurs ingénieurs. Sauf que, pas de jaloux, il y a ce risque, manifestement, en Europe, à travers cette décision de justice qui était aux Pays-Bas, puis le même risque aux États-Unis.
Bien sûr, puisqu'il y a 2 autres développeurs de Tornado Cash, Alexei Partsev n'était pas le seul, qui sont à risque aussi de condamnation, et notamment aux États-Unis.
Alors, la question de la confidentialité, elle est aussi au cœur des enjeux des devises numériques de banques centrales. Bah oui, on leur reproche beaucoup, justement, ces devises numériques, peut-être, de mettre en danger l'avenir de notre confidentialité. Il se trouve que même les Chinois en ont conscience. En tout cas, le yuan numérique, on sait que la Chine est très avancée dans les devises numériques de banques centrales, le yuan numérique peine à convaincre les Chinois, la population chinoise, Thibault.
Ouais, c'est ça. Alors, ça fait quelques années maintenant qu'il est déployé, on commence à avoir un petit peu de track record, même si c'est toujours compliqué d'avoir des informations sur ce sujet, et les retours d'expérience, ils sont pas très bons. Et donc là, il y a un papier qui a été publié en Chine avec différents témoignages, et il y en a qui sont assez troublants. Il y a notamment des personnes qui disent que ils reçoivent leur paye en fait dans le yuan numérique, et instantanément en fait ils la convertissent en monnaie fiduciaire. Et leurs explications, c'est je vois pas l'intérêt que j'ai de garder ce yuan numérique, parce que de toute façon il sert à rien, je comprends pas l'intérêt, je peux pas l'utiliser nulle part, donc ça sert à rien de le garder. Donc je pense qu'ils ont voulu aller très vite, ils ont voulu être un peu précurseurs, ils ont voulu tester des choses, ils ne sont pas tout de suite posé la question de à quoi ça pouvait servir, et là on se rend compte que vraiment le cas d'usage il peine à être trouvé, et je pense que c'est un message qu'il faudrait que les autres entités gouvernementales qui sont en train de regarder ce sujet se posent aussi, parce que effectivement si c'est juste pour faire une monnaie numérique, l'intérêt finalement il est...
Donc là c'est le manque de cas d'usage qui pour les Chinois,
c'est plus que les
questions de confidentialité.
C'est ça, alors après c'est toujours délicat d'avoir d'avoir beaucoup d'éléments sur ce sujet parce que c'est la Chine, donc c'est compliqué, mais en tout cas ce qui en ressort c'est ça, et ça peine à en convaincre alors que ça fait déjà quelques années qu'il est déployé. Quoi. Alors,
la Chine et le conflit avec les États-Unis, on en parle très souvent sur les marchés financiers, en bourse évidemment c'est un vrai sujet, et puis on voit cette tension entre Américains et Chinois rattraper aussi l'écosystème crypto ces derniers jours, des soupçons peut-être d'espionnage du côté des mineurs aux États-Unis.
Ouais, alors on a eu une belle démonstration de ce qu'est l'effet papillon cette semaine aux États-Unis avec cette affaire, parce que c'est une affaire qui est en réalité sur le papier pas si grosse que ça, et pourtant elle a été reprise un petit peu partout. Alors pour contextualiser, donc ça part d'une entreprise qui s'appelle MineOne, qui est une société de minage qui est immatriculée au Caïman, qui est détenue par des Chinois et qui opère des fermes de minage notamment aux États-Unis. Donc jusque là pas de problème, il y a plein d'acteurs étrangers qui minent aux États-Unis. priori, c'est pas un souci. Sauf que là, la ferme, elle était installée en fait à proximité d'un site sensible, puisque c'était un site militaire sur lequel il y avait des missiles nucléaires. Et donc là, globalement, on n'a pas le droit normalement d'installer une installation, encore moins une installation étrangère, à une certaine distance. Et donc là, à partir de là, quand ça a été dénoncé par Microsoft, à partir de là, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Alors on a eu des termes sécurité nationale qui ont été employés, espionnage industriel, espionnage militaire. Il y a un petit peu tout ça qui est ressorti, sans qu'on sache c'est quoi vraiment le vrai du faux. Apparemment, quand ils ont installé la ferme, ils ont acquis les locaux de manière un petit peu opaque. Ils ont fait des travaux sans demander les autorisations nécessaires. Mais c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'éléments sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça intervient justement dans le cadre avec ce conflit entre la Chine et les États-Unis qui est en train de grandir en pleine campagne électorale. C'est un bon moyen pour Joe Biden aussi de taper un petit peu du poing sur la table et de faire un petit peu un exemple en leur demandant de quitter le territoire et d'arrêter leur activité. Bon, c'est arrivé sur une ferme de minage, ça aurait pu arriver finalement sur n'importe quel autre type d'activité à partir du moment où il y a du matériel informatique. Mais voilà, donc c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Au final, on a très peu d'infos. Peut-être que c'était juste une société qui faisait simplement du mining et que ça s'est emballé un peu vite.
On reçoit une question d'auditeur là sur notre fil X BFM Crypto. Il s'appelle François-Xavier et il nous demande, François-Xavier, il nous écoute. L'un et l'autre, c'est une question pour tous les deux, Claire et Thibault. Quelle est l'innovation technologique ou en termes d'infrastructure qui vous bluffe le plus là depuis le début de l'année ou qui pourrait bientôt nous bluffer tous? Bon, je sais pas, l'un d'entre vous veut répondre à cette question, François-Xavier? Claire?
L'innovation qui nous bluffe tous, alors depuis le début d'année, je sais pas, mais depuis, je dirais une petite année, moi je vois beaucoup de progrès sur les wallets crypto.
Ouais.
On a vu à la fois des wallets MPC et le Quant Abstraction arriver sur Ethereum. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses pour l'expérience utilisateur dans la crypto. Et ça rend l'utilisation de la crypto beaucoup plus facile pour le grand public. Ça évite, par exemple, d'avoir, vous savez, cette fameuse phrase de 12 mots ou de 24 mots à stocker, voilà, qui est un gros obstacle.
C'est fini, ça.
Donc moi, je dirais que c'est une grosse innovation, à la fois en termes techniques, mais aussi en termes d'usage.
Ouais. L'innovation qui vous bluffe.
Ouais, la Quant Abstraction, c'est ce qui m'est venu tout de suite et cumulé avec les briques qu'on est en train de rajouter aussi avec l'IA. Ça donne des choses intéressantes qui améliorent l'expérience utilisateur, qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc toutes ces choses-là sont intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur des innovations qui vont vraiment dans le sens de la simplicité d'utilisation pour l'utilisateur. On est moins sur des fondamentaux, même s'il se passe des choses sur les fondamentaux. Et ça, c'est intéressant pour embarquer du monde.
Les pros des cryptos se poursuivent. Il nous reste à peine 3-4 minutes à passer ensemble. On va parler d'un amoureux qui, pour le coup, envoie régulièrement des preuves d'amour. Il s'agit du Salvador. L'amour du Salvador pour l'écosystème crypto, on a une nouvelle preuve d'amour, là, puisque le Salvador a lancé ces derniers jours un explorateur blockchain. C'est quoi un explorateur blockchain? Et est-ce que c'est, oui, un signe d'engagement supplémentaire, Claire?
Vous connaissez les explorateurs sur Internet, Google par exemple, qui permet de faire des recherches et de trouver tous les sites web qui existent liés à un mot, à une expression. Là, c'est un peu pareil, mais c'est pour la blockchain. Donc un explorateur blockchain, ça permet de visualiser et de rechercher des blocs, des transactions, de savoir par quel mineur a été miné tel ou tel bloc, de savoir à quel moment a été validée une transaction, etc. Donc c'est un outil de transparence très important. Il y a plein d'explorateurs blockchain, bien sûr. Dans les plus connus, on a blockchain.info, qui est détenu par blockchain.com, mais vous en avez beaucoup d'autres. Et c'est vrai que le fait que le Salvador fasse son propre explorateur blockchain, ça montre qu'ils ont envie non seulement de maîtriser un peu plus la technologie, mais surtout de pouvoir proposer une interface pour leurs partenaires, pour leurs citoyens, et de pouvoir aussi jouer la transparence en montrant leurs propres transactions et en montrant leurs adresses, les bitcoins qu'ils détiennent. On voit par exemple qu'ils s'étaient engagés à acheter un bitcoin par jour, donc on peut le suivre aussi sur ce fameux explorateur de la blockchain bitcoin. Donc c'est une étape de plus en fait pour le Salvador dans sa démarche sur Bitcoin. On voit que le Salvador aujourd'hui commence à accumuler. Hein, c'est vrai, pas mal de Bitcoin, ils sont encore très très loin du gouvernement des États-Unis ou du gouvernement chinois. Ils se constituent un petit pactole et ils sont, je crois, à plus 45% en termes de plus-value sur cette crypto.
Les pros des cryptos, suite et bientôt fin. Il reste plus qu'une minute trente à passer ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire de cette minute 30 pour qu'elle apporte le plus de valeur ajoutée possible à nos auditeurs et téléspectateurs? Tiens, on peut parler justement, vous citiez les États-Unis qui ont acheté beaucoup plus de Bitcoin avec la Chine aussi que le Salvador. On n'est pas sur la même échelle de pays. Donald Trump fait régulièrement des appels du pied en ce moment à la communauté crypto, au point que Joe Biden, dans cette communauté, prend peut-être un peu de retard. En tout cas, pour le fondateur d'Uniswap, Joe Biden doit changer sa position sur les cryptos s'il espère être réélu.
Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines. Hein, les élections américaines sont au cœur des sujets crypto aussi. Il n'y a pas une semaine sans qu'on sente que ça fasse un petit peu l'actualité. Effectivement, Trump paraît plus en vitrine comme un partisan, à l'inverse de Joe Biden, qui semble un petit peu plus contre le sujet. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est ça qu'a voulu signaler le CEO d'Uniswap en disant à Biden, attention, peut-être qu'il y a des voix qui peuvent être perdues en adoptant ce type de comportement et peut-être qu'il faut revoir un peu la copie.
Il y a un État qui a acheté les bitcoins en profitant des ETF, c'est l'État du Wisconsin. Voilà, c'est intéressant de voir ces institutions qui peu à peu se convertissent alors en diversification au bitcoin. Mais voilà, un État américain, le Wisconsin, qui vient d'acheter 164 millions de dollars de bitcoins à travers des ETF, c'est ça, Claire ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on espérait d'ailleurs avec l'arrivée des ETF, c'était de voir des entreprises et des institutions investir dans Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est un exemple surprenant parce que les institutions, et notamment les institutions publiques généralement, attendent un peu plus avant de se lancer sur les ETF. Là, ça fait que quelques mois. On s'attendait plutôt à ce que ça prenne un an, deux ans avant que ces institutions se lancent sur Bitcoin. Mais ça démontre encore une fois l'appétence pour ce type de produit aux États-Unis.
Oui.
Donc on s'attend à voir d'autres États qui investissent.
Mais alors attendez, JP Morgan, le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, n'arrête pas de dire pique-pendre. Pique-pendre, ça veut dire pour ce. Parce que voilà, je sais que c'est générationnel ce terme. Voilà.
Moi, je ne l'avais pas.
Vous ne l'aviez pas, voilà. Pique-pendre, allez-y.
Pique-pendre,
ouais. Bravo, mais... on vous l'aurait dit au moins une fois dans votre vie, je ne sais pas si vous aurez d'autres occasions de le dire. Pique-pendre, voilà, critiquer le Bitcoin. Jamie Dimon déteste le Bitcoin. Ça n'empêche pas sa banque, JP Morgan, finalement, d'en avoir acheté du Bitcoin. On a pris ça cette semaine.
Oui, c'est ça. Il y a un paradoxe, du coup, entre, pour le coup, les faits et les paroles. Donc, il s'affiche régulièrement contre Bitcoin et, pour le coup, en plus, en opposition frontale assez marquée. Et là, on a appris que JP Morgan avait acheté des Bitcoins. Alors, après, en proportion. Très, très minime hein, par rapport à la taille de JP Morgan. Je crois que c'est à peine un million de dollars qu'ils ont acheté. Donc ça reste globalement petit dans la balance de JP Morgan.
Mais le symbole est là. Tout compte. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sont les pros des cryptos. Retrouvez aussi tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Claire Balva, VP Stratégie de Deux Blocs. Et Thibaut Boutrou, directeur des opérations de Meria. Bon week-end à tous les deux. Bye bye.
Merci.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.